C'est large, donc l'expérience est très probante parce que ça se déploie sur 1400 hectares, donc ça permet quand même de voir comment les choses peuvent se mettre en place. Et donc à partir de 2001, ils vont procéder au réensauvagement de ce domaine. Et donc le film a été tourné l'année dernière en 2025, donc vous imaginez, et c'est incroyable, incroyable, comment la nature a la capacité de se régénérer pour peu qu'on lui en laisse le temps et l'espace. Et c'est des choses qu'on a pu voir, nous, à une échelle beaucoup plus petite et beaucoup plus humaine, il n'y a pas si longtemps avec le Covid. Rappelez-vous, on revoyait des espèces sauvages dans nos espaces publics, on voyait subitement la nature avec cette capacité de résilience, comme on dit, de régénérescence. Et ça, c'est assez... moi, je trouve ça assez magnifique.
Ça réinterroge aussi la notion de l'espace et de quel espace on va aussi donner la place à la biodiversité. Ça questionne aussi l'humain par rapport à son rapport à l'espace, je trouve, quand on re-questionne le ré-ensauvagement, puisque en effet c'est une nouvelle modification du ce qui est sauvage. Ce qui était sauvage ancien, aujourd'hui, parler de sauvage au XXIe siècle n'est plus, je pense, on n'a plus les mêmes références aujourd'hui pourtant, par rapport...
Il y a presque une connotation négative même dans le grand discours,
c'est
on va
comme
dire...
une mutation du sauvage.
Enfin. Bien sûr, mais parce que, si vous voulez, la domestication, c'est la maîtrise, c'est la mainmise, c'est l'homme qui décide de tout. Le sauvage nous échappe et donc le sauvage nous fait peur. Et regardez aujourd'hui la terreur réelle de certaines personnes avec le fait que le loup, par exemple, très naturellement, parce que là, ça n'est pas, on ne parle pas de réintroduction. Le loup revient naturellement parce que c'est comme ça qu'il colonise, entre guillemets. Les mâles viennent et puis ils seront suivis probablement un moment par des femelles. Et là, il y aura peut-être des petits groupes de loups qui se constitueront et qui régleront des problèmes auxquels aujourd'hui on n'arrive pas à trouver de solution. Typiquement, aujourd'hui, la prolifération d'un certain nombre d'animaux qui sont privés, vous le disiez très justement, Nathalie, d'espace. Et donc, déborde sur les espaces publics, sur les espaces privés. Mais par exemple, le loup, ça terrifie les gens. Parce qu'on a créé aussi beaucoup de mythes. Je lisais, il y a je ne sais plus combien de loups en France, il n'y a pas eu l'attaque d'une seule personne humaine. Et pourtant, les loups sont à proximité des humains. Donc, si vous voulez, le loup n'attaque pas les hommes. Alors, oui, il peut s'attaquer au bétail, mais il y a des mesures de prévention. Mais donc, oui, le sauvage, et d'ailleurs, c'est devenu même une insulte dans la bouche de certains politiques. Les sauvageons, on a entendu, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'expériences qui sont faites. On va préserver des espaces. Vous avez raison, c'est absolument lié à ça. On va aller préserver des espaces. C'est le projet, par exemple, de la Fondation Francis Allais aussi, de dire on va aller préserver un espace pendant un temps donné pour essayer de recréer une forêt primaire et puis laisser la nature faire.
Et dans le côté humain, c'est à quelle mesure on fait le travail de ce qu'on est en humain, être humain, homme, de la place qu'on peut laisser aussi à l'autre. C'est-à-dire, je trouve que ça actionne à chaque fois ces deux questions qui sont l'espace et justement l'homme, quelle place il peut laisser à l'autre, sa possibilité aussi, son acceptation de laisser un peu plus de place à l'autre et à la différence. Oui, je trouve que ça va dans ces deux notions humaines, en tout cas.
Oui, je crois qu'il faut revenir à l'idée que c'est pas on laisse de la place, c'est on prend juste celle qui doit nous revenir et pas plus, en fait. C'est-à-dire que question de cohabitation, elle est absolument essentielle. Aujourd'hui, on a compris, parce que ça a été prouvé par toutes les études et tous les scientifiques, que si on n'est pas en capacité de cohabiter avec le reste du vivant, nous ne pourrons pas cohabiter tout court, nous ne pourrons pas habiter tout court, en fait. Et que la question pour nous d'habiter ne peut se conjuguer qu'avec la cohabitation. Et donc il faut respecter la place du vivant et trouver sa place là-dedans, mais ça ne veut pas dire repartir à vivre comme on vivait au 16e siècle, ou non du tout, mais simplement se dire on doit être dans une relation très très différente au reste du vivant.
Mais on change encore des paradigmes du coup pour
tout à fait. Mais beaucoup de choses y contribuent aujourd'hui.
Je vous propose une toute première pause musicale avant de retrouver la deuxième partie avec Valérie Barrand, directrice du Tangram, mais aussi programmatrice de ce festival Anthropocène, dont nous étions justement en train de parler. La première pause musicale, Valérie choisit, c'est Anne Passeo. Quelques mots sur Anne Passeo.
Oui, alors c'est une figure de proue de la nouvelle scène jazz. Elle vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Atlantis et qui est né de sa découverte des fonds marins en plongée. C'est une batteuse, une compositrice. Alors, je crois que c'est l'une des femmes les plus qui a reçu le plus de victoires de la musique du jazz. C'est vraiment quelqu'un qui fait un travail magnifique. Et donc, on aura le bonheur de présenter son concert pendant les Anthropocènes. Donc, que je vous dise pas de bêtises, c'est le 27 mai à 20h30 au Cube. Et le morceau que j'ai choisi s'intitule Sedna. Alors c'est un petit clin d'œil au quatuor Sedna pour moi, hein, qui est un quatuor vernonnais de quatre chanteuses merveilleuses qui chantent a cappella et qui se produiront en ouverture à Verneuil d'Avréditon, notre partenaire. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur le fait qu'on joue sur l'ensemble du département. Mais surtout ce morceau, elle est accompagnée par Gilda, qu'on a eu le bonheur d'accueillir il y a quelques mois et qui est quand même aussi une chanteuse merveilleuse. Donc Anne Passeo dans ce titre Sedna avec Gilda.
There is a rage and frantic fire in my head. Fun and flames for the desires left unsaid. My own dark crowd and my waiting to be fed. Am I evil if I prey on the dead?
Passeo avec le titre Sedna, extrait de l'album Atlantis. C'était un choix de Valérie Barrand, directrice du Tangram et programmatrice des Anthropocènes dont nous parlons depuis le début de cette émission. Il y avait une notion qu'on souhaitait aborder. On a parlé de ces questions domestiques ou sauvages. On a parlé des effets, de comment l'humain avait agi sur l'environnement. Mais quand quand on parle d'environnement et à travers ce festival, on parle de territoire bien plus large. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec des partenariats avec Verneuil d'Avréditon, mais au-delà de Verneuil d'Avréditon, il y a une dimension départementale ou en tout cas territoriale assez large à ce festival. C'était un choix dès le début de l'inscrire finalement, d'inscrire les Anthropocènes justement dans un territoire plus large.
Oui, alors dans l'idée, c'est plus largement au-delà des Anthropocènes, c'est aussi le projet de la scène nationale du Tangram, donc d'aller à la rencontre des publics. Nous, vous savez, on relève de la mission de service public, c'est peut-être important de le rappeler aussi en ces temps, c'est-à-dire que notre mission, c'est de rendre le théâtre, l'art et la culture accessibles à tous. Et or, aujourd'hui, nous habitons un territoire rural, évidemment, même si Évreux est la ville-centre, autour de nous, énormément de communes sont plus éloignées ou n'ont pas d'offres culturelles propres parce que pour des raisons financières ou des raisons... Donc l'idée c'est de pouvoir aller à la rencontre des publics et de pouvoir amener des œuvres de qualité au plus près des publics. Et évidemment le festival renforce ça et même le décuple puisque aujourd'hui on peut dire que le festival se déroule pour cette édition du 18 au 31 mai et que c'est plus de 110 propositions qui sont déployées sur l'ensemble du département de l'Eure et au-delà, puisque vous le disiez, c'est la cinquième édition, mais eh bien le festival est connu, reconnu, ça c'est une grande, grande fierté pour nous. Et donc les partenaires viennent assez naturellement vers nous, donc on joue aussi dans le reste de la Normandie, et je dois dire que la visibilité du festival est plutôt une visibilité nationale, puisqu'on a des partenaires aussi au plan national, et ça c'est une grande chance pour nous.
C'est une façon aussi d'aborder les enjeux plus larges, humains et environnementaux, différents. C'est-à-dire qu'on a régulièrement accès à des articles, individuellement à un documentaire, individuellement à des éléments. Mais finalement là, ce qui est proposé, c'est pas totalement un parcours, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large à travers les Anthropocènes.
Ah oui, alors là, vous avez des spectateurs, alors c'est magnifique. Hein, moi, à chaque fois, je suis particulièrement émue, mais Caro peut en attester. On a présenté le festival il y a quelques semaines et vous avez des gens qui repartent avec des parcours complets où ils ont pris 35 propositions parce qu'ils vont passer la journée avec nous, on va les emmener en bus pour aller par exemple visiter les marais Vernier avec un écologue, donc ça c'est en partenariat avec le CAUE 27, mais on va faire une visite commentée du très joli musée Blancheuse des Monets à Vernon, des œuvres animalières justement et paysages de paysages, parce que vous savez qu'évidemment c'est un petit musée impressionniste, donc il y a beaucoup beaucoup de paysages des boucles de la Seine, avec une grande historienne des sciences et de l'environnement qui s'appelle Valérie Chansigaud et qui va expliquer quel est le regard à travers ces œuvres artistiques on pose à travers les œuvres sur le vivant. Ça, par exemple, si vous voulez... Alors là, je vous parle de Vernon, je vous parle de marais, des marais Vernier, mais les partenaires, on a plus de 150 partenaires qui sont des partenaires culturels, des partenaires aussi éducatifs, parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'enseignement, depuis la toute petite enfance jusqu'aux universités. Les deux universités de Rouen et du Havre sont nos partenaires depuis le début, depuis la première édition. Et puis des partenaires associatifs, évidemment, et toutes sortes, et puis des communes, des communautés de communes. Donc oui, on se déploie. Il y a une petite carte d'ailleurs qui montre qu'on irrigue bien le territoire aussi, comme une petite rivière, on vient irriguer tout ça. Et ça, c'est chouette de rencontrer les gens sur place et de travailler avec eux.
J'imagine, alors là je m'adressais à la personne Valérie Baran, j'imagine que ça doit être passionnant de travailler sur le développement de ce projet-là. Ouais. J'imagine que c'est d'aller de découverte en découverte aussi sur les richesses propres du territoire où vous menez votre activité. Mmh. Est-ce que d'avoir lancé ce festival, pour vous, ça vous a totalement aussi... appris à découvrir autrement notre territoire quand vous êtes arrivé, de voir voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté, parce que voilà, quand vous en parlez avec une aussi grande fluidité puis une intégration et appropriation du sujet, c'est que voilà, il y a quelque chose qui s'anime au profond de vous.
Oui, oui, absolument, vous avez raison, ça m'a à la fois, je découvre la richesse de notre territoire grâce à l'ensemble de ses partenaires, mais je découvre surtout la richesse du vivant l'incroyable, merveilleux du vivant. Et je suis dans un. Alors on va penser que je suis une comment on appelle ça, une illuminée. Mais si vous voulez, je trouve que le monde aujourd'hui gronde beaucoup. Il y a beaucoup de sujets d'inquiétude. Et quand on regarde le vivant, c'est une façon de retrouver du merveilleux, du magique au quotidien. Je veux dire, tous on regarde peut-être l'éclosion d'une fleur dans son jardin, ou la pousse d'un petit arbre, ou aujourd'hui l'apparition des premiers insectes, quand il ne reste plus beaucoup de papillons, hélas, mais quand on voit un papillon...
papillon jaune qu'on voit là en ce moment.
Voilà, et c'est quand même... Il y a un émerveillement, et je trouve que la nature est merveilleuse. Donc oui, à titre personnel, pour moi, c'est une source d'abord d'apprentissage, de toujours de peaufiner les connaissances. Et puis au fur et à mesure qu'on invite des savants, hein, puisque ces chercheurs incroyables, eh bien ça ouvre d'autres champs d'exploration. Et j'ai l'impression que c'est un puits sans fin, mais un puits de connaissances qui me ravit et que j'essaie de partager cet émerveillement et cette fascination avec le public.
Il y a vraiment une notion perturbante, en fait, plus on en apprend sur ces questions environnementales, d'interaction entre les espèces, avec la faune, la flore, tout ça. Il y a quelque chose presque qui vient nous perturber, j'ai l'impression, à l'intérieur. C'est peut-être un ressenti juste personnel, mais plus on en apprend, finalement, plus on se laisse perturber par le monde extérieur, le monde du vivant.
Oui, parce que la science continue, en fait. La science avance, les choses ne sont pas arrêtées. Et par exemple, on avait fait la deuxième édition, on l'avait centrée sur les insectes, et on avait reçu des scientifiques, donc un entomologiste de renom, qui disait en fait que les insectes étaient très très peu étudiés. Et là, cette année, par exemple, on va accueillir Audrey Dussutour, c'est le dernier jour, le 31, et elle va nous parler des fourmis, c'est l'une des grandes myrmécologues, spécialiste des fourmis au monde. Et elle va nous parler des fourmis, mais par exemple, est-ce que les gens savent que les fourmis, eh bien, elles coupent les ailes de leurs pucerons, comme nous, on peut couper et jointer certains volatiles pour pas qu'ils sortent de la basse-cour. Bon, bah, elles coupent les ailes des pucerons pour pas qu'ils s'en aillent, elles les stockent. Elles, pour pouvoir les traire plus facilement, extraire le miel là, eh bien, elles diffusent des substances chimiques. Alors, elles n'ont pas de produits phytosanitaires, mais elles sont assez armées biologiquement pour diffuser des substances qui vont les rendre plus indolents et plus facilement traillables, entre guillemets, puisqu'elles leur caressent l'abdomen pour qu'ils extraient le miel là. Mais est-ce que vous savez, par exemple, qu'elles vont jusqu'à, quand elles ont un très bon cheptel, quand il y a vraiment des super pucerons qui font du super miel là, qui produisent beaucoup, quand ils sont pas bons, elles ont tendance à les bouffer, et puis elles vont voler les autres chez les colonies d'à côté. Mais quand ils sont vraiment bons, pour être sûr qu'elles ont un bon cheptel de pucerons, elles vont prélever les œufs. Les pucerons meurent à l'hiver, vous avez remarqué. Hein, et elles vont les mettre en couveuse dans leur nid pour pouvoir replacer les œufs sur nos végétaux. Donc ce sont des vraies petites fermières, si vous voulez. Ce sont des vraies petites bergères. Et elles ont quelque part domestiqué les pucerons.
C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est, on fait la boucle à la fin avec le monde des insectes où elles ont domestiqué le.
Bah, c'est pour ça qu'on a invité Audrey à venir en parler. Ah, parce que, en fait, la domestication est un phénomène qui est essentiellement humain. En tout cas, nous, on a beaucoup considéré les choses à travers nous. Vision. Mais si on s'intéresse au reste du vivant, eh ben, on découvre aujourd'hui, par exemple, que des singes géladas dans la cante de l'Afrique vivent, dorment avec des chatons dans les bras. Ils ont chopé des chatons sauvages. Alors, ça n'a aucune espèce de bénéfice pour eux, autre que c'est doudou, c'est mignon, ils peuvent leur faire des bisous, les caresser, que ça leur tient chaud. Bon, ben, ça rappelle, il y a quelques-uns qui dorment avec leur chat ici autour de la table. Je ne les nommerai pas, et j'en suis. Et ils ont des chiens aussi, ces singes géladas. Hein. Alors c'est un phénomène qui vient juste d'être étudié, ça vient d'apparaître dans les magazines scientifiques. Donc pour ce faire, moi je suis beaucoup l'actualité scientifique, je lis. C'est un bonheur, hein, et ils ont récupéré des chiens. Alors il faut savoir que les chiens, par exemple, il y a beaucoup plus de chiens réensauvagés, même s'ils restent toujours domestiques, que de chats. Et alors qui, eux, ne peuvent pas monter dans les falaises dans lesquelles ils dorment avec leurs petits chats, mais ils sont au pied, comme ils peuvent garder la maison d'un maître de chien, je sais pas comment on dit, d'un humain, d'un chien. Eh bien, ils sont en bas des falaises, ils les protègent des prédateurs, et voilà. Donc si vous voulez, aujourd'hui, nous, la science, pendant très 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 longtemps, s'est beaucoup intéressée des phénomènes à travers le regard des hommes. Et ceux qui ont changé ça, et celles qui ont changé ça, ce sont des femmes. Pardon de faire une petite incise, mais c'est très important, ce sont des femmes primatologues qui ont complètement changé le regard. Évidemment, Jane Goodall, pour lesquelles on a une pensée très émue, qui a été l'une des très très grandes primatologues qui a étudié les chimpanzés, et qui pour la première fois leur a donné des noms, les a personnifiés, alors qu'avant c'était des numéros, et les a donc considérés en dehors de notre vision très anthropocentrée, et a permis de faire avancer la science de la primatologie. Mais d'autres, les grandes primatologues qui ont
Diane Fossey,
bien sûr, et puis j'oublie le nom de la primatologue hollandaise qui vient de s'éteindre, la néerlandaise, et qui étudiait les orang-outans, qui étaient aussi que des femmes, et elles ont bouleversé l'art de la primatologie, enfin la science de la primatologie. Mais je pense que voilà, aujourd'hui le regard est en train de changer aussi, et ça c'est intéressant.
On a hâte de plonger dans ce bouillon de culture, hein.
Alors, pour parler programmation aussi, peut-être qu'on pourrait évoquer la venue du grand invité étranger, comme chaque année, hein.
Oui.
Depuis la première édition, on a toujours
un représentant de peuples autochtones. C'est important parce que ce sont des gens qui vivent donc depuis des millénaires sur un modèle qui est relativement le même, même si évidemment on vit une mondialisation qui fait qu'aujourd'hui il existe peu de peuples qui ne sont pas en interaction avec d'autres, mais en tout cas qui vivent dans un milieu et dans une relation vivante qui est très différente de celle que nous avons, nous, peuple qui ne sommes pas autochtones. Alors là, on accueillera le représentant du dernier peuple autochtone européen. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des peuples autochtones en Europe, il n'en reste plus qu'un, et qui est très important. Il s'appelle les Samis. On les a longtemps appelés les Lapons, mais Lapons, ça vient du suédois, et c'est très, très, très méprisant. Donc évidemment, ce sont les Samis, ils vivent au Samiland, et ce sont ces territoires tout au nord du cercle polaire, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, et d'une petite partie de la Russie avec la péninsule de Kola. Et donc ces gens vivent depuis plus de 10 000 ans, vous voyez, le néolithique, sur ces territoires. Ils ont une relation vivante qui est radicalement différente de la nôtre, puisque par exemple, ils élèvent des rennes, qui sont des animaux un peu particuliers parce qu'ils ne sont pas tout à fait domestiques, mais au lieu de les amener en pâture, ils les suivent, vous voyez, dans leurs déplacements. Et puis ils vivent de l'artisanat et tout ça. Ils sont très mobilisés pour essayer de défendre leurs terres en ce moment. C'est une bagarre parce qu'hélas pour eux, ces terres sont très très riches en minerais, et donc il y a évidemment beaucoup beaucoup d'intérêt pour aller creuser des mines et tout défoncer. Ils se bagarrent, et on aura le bonheur d'accueillir Youn Utsi, qui est donc éleveur de rennes, Sami, qui va commencer doucement à descendre de son cercle polaire dans quelques semaines pour arriver tranquillement vers nous, passer une semaine sur le territoire, rencontrer des gens. Il est accompagné de Corto Fajal, qui est un réalisateur de documentaires, mais par ailleurs un chercheur qui a passé 7 ans avec les Samis pour réaliser ce documentaire. Donc à chaque fois, on a la présentation du film documentaire qui est un portrait de Youn dans son groupe ethnique. Donc lui est suédois, enfin son groupe ethnique est en Suède. Et c'est incroyable parce que évidemment, on voit aussi les effets du dérèglement climatique qui sont beaucoup beaucoup plus sensibles, vous savez, dès que vous approchez des pôles, que chez nous. Et on voit les incidences que ça a sur leur vie au quotidien. Mais donc on aura le bonheur d'avoir Youn et Corto Fajal pendant toute la deuxième semaine du festival, et qui vont circuler sur tout le département. Ils seront à Brionne, ils seront à Bernay, ils seront à Verneuil-Davre, dit-on, ils seront chez nous, et puis ils seront aussi dans un certain nombre d'associations et d'établissements scolaires.
Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur ce festival avant de rappeler les dates? Alors, oublié dans la présentation, parce que bien entendu, je ne sais pas si on peut réellement revenir sur la programmation. Vous disiez plus de 110 propositions. Ouais. On ne peut pas égrener 110 propositions, c'est tellement impossible.
On peut dire que c'est trouvable sur le site internet du Tangramme.
Exactement.
Et en plaquette disponible dans nos lieux. Il suffit de passer au cadran ou au théâtre Le Gendre et on peut se procurer la programmation.
Oui, et qu'on est là pour répondre à toutes les questions, mais oui, c'est beaucoup plus vaste que ce que j'ai pu vous en dire, hélas, mais en tout cas, merci de m'offrir ce temps de parole, parce que je crois qu'il y a matière. En tout cas, on va aussi aborder, pardon, peut-être, je le disais tout à l'heure, mais les liens particuliers qu'on peut tisser avec les animaux domestiques et les animaux de compagnie. Alors, on parlait des chats, des chiens, mais est-ce que vous savez, par exemple, que dans le moment où on va donc sélectionner le loup pour en faire le chien, hein, le premier animal domestique, eh bien, il va apparaître chez le chien des muscles qui n'apparaissent pas chez le loup, donc il va se transformer un peu physiquement, et le syndrome, il va se transformer, mais il va entre autres avoir un muscle qui est le muscle des sourcils, et si vous avez un petit chien, vous savez combien les sourcils sont importants dans la communication qu'ils ont avec leur maître, et leur donc avec une capacité de communiquer, et donc de créer du lien extrêmement important. Aujourd'hui, c'est très étudié, entre autres pour le bien-être des personnes qui sont en situation de handicap, ou avec des pathologies particulières, mais aussi, par exemple, dans les EHPAD, ils ont remarqué qu'en introduisant des animaux de compagnie, eh bien, la durée de vie des résidents était considérablement allongée.
Oui. Voilà. Bon, une des nouveautés présentes aussi sur notre territoire, ce sont les chiens qui sont en capacité de détecter les crises de diabète, oui, chez les patients. Oui. Et maintenant, c'est un soin thérapeutique où le chien va alerter l'arrivée de la crise, ouais, et donc anticiper la prise du traitement pour la personne.
Maintenant, il y a des chiens qui sont capables aussi d'anticiper, de prévenir des crises d'épilepsie, par exemple. Donc, c'est l'animal qui est presque médecin, parce que dans ce lien très très fort qu'on a avec lui, eh bien, il va pouvoir venir nous protéger, nous préserver, nous accompagner, sans parler évidemment des chiens qui accompagnent les personnes qui sont déficientes visuelles, des chiens qui accompagnent les personnes qui sont déficientes auditive, pour les appeler si ça sonne, si voilà. Et puis les enfants, aujourd'hui il y a des chiens dans certaines classes pour aider à apaiser, voilà, enfin, donc le chien beaucoup évidemment, mais les animaux ont un rôle absolument essentiel dans nos vies, et c'est important de le rappeler aussi.
On reste sans voix, vous voyez, c'est ce genre de transition où on ne sait plus comment repartir.
Ça invite tellement à plonger après dans la programmation, à aller ouvrir le dépliant, aller sur le site internet pour aller piocher son soin, faire sa programmation.
Du 18 au 31 mai.
Domestique ou sauvage, une question à explorer durant les anthropocènes. Avant de nous quitter, Valérie Barrand, toujours directrice du Tangramme et programmatrice de ces anthropocènes, avant de nous quitter, vous êtes venue avec un deuxième morceau de Moby, enfin un morceau de Moby. Vous pouvez nous en dire quelques mots, et pourquoi ce choix ?
Parce que, je le disais tout à l'heure, le monde va mal, on le sait, on écoute, on entend, c'est la guerre, c'est l'idiocratie dans certains pays, pardon d'être un peu, voilà, mais on peut se dire les choses entre nous, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Et que Moby, eh bien, il est écolo, il est vegan, il est démocrate, il est new-yorkais, c'est-à-dire qu'il est exactement à l'opposé de tout ce que la sphère MAGA revendique. Et donc, il est ce que, je pense, Trump doit exécrer le plus possible. C'est quelqu'un qui s'est engagé très, très tôt dans les questions d'écologie, de préservation de l'environnement. Il vient de donner un concert absolument merveilleux à Coachella. Et il va reverser l'ensemble des bénéfices à des associations de protection de l'environnement. Et il a écrit ce titre il y a déjà longtemps, qui s'appelle « Why does my heart feel so bad ?» Pourquoi est-ce que mon cœur souffre tant ? Et qui, je trouve, fait écho à ces problématiques qu'on défend dans le cadre du festival Les Anthropocènes.
Merci beaucoup, Valérie Barrand, d'être passée par nos micros.
Merci beaucoup.